c'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, on va aller à Romains chapitre 13. Et c'est vraiment le temps pour nous de voir ces choses dans la parole. Ça fait peut-être plusieurs ans même que j'avais à cœur de faire une série de messages sur la fin des temps et le plan de Dieu pour la fin des temps. Mais j'ai jamais eu vraiment le témoignage dans mon cœur que c'était le bon timing. Mais ça fait quelques semaines que j'avais vraiment la conviction que maintenant c'est le temps et j'ai commencé à préparer des choses et c'est pourquoi j'ai tellement hâte parce que je crois que le Seigneur va nous parler ce matin. C'est pas juste le pasteur qui va nous parler, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi et sur moi et le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Il va nous parler. Donc celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que dit l'Esprit à l'Église. Amen. Écoutons avec notre cœur, écoutons avec vraiment les oreilles de l'Esprit ce matin. Parce que nous voyons tout ce qui se passe, et même cette semaine, on a vu des choses sur le plan international. On a vu une guerre déclenchée contre l'Irak. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions encore. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas certaines. Même dans le nord de Corée du Nord, ils parlent de se préparer pour une guerre aussi. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la terre, les famines, les tremblements de terre, toutes sortes de choses que Jésus a dit auraient lieu à la fin des temps. Mais au milieu de toutes ces choses, Jésus a dit de ne pas avoir peur. Amen. De ne pas être inquiet, mais d'avoir vraiment la paix et de savoir que tout est sous contrôle. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Tout le monde dit, j'ai rien à craindre. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus ce matin, c'est peut-être pas le cas. Peut-être vous avez raison d'être un peu nerveux. Mais si vous connaissez Jésus, vous n'avez rien à craindre. Et je veux juste, au début de cette série, je veux que ça soit clair. Mon but, c'est pas d'effrayer qui que ce soit. Au contraire, si on lit les Épîtres, si on lit la Bible concernant la fin des temps, on voit que c'est supposé d'être un sujet d'encouragement, d'exhortation et de consolation. Amen. C'est pas supposé d'être un sujet de peur ou de crainte. Non, 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 non. C'est vraiment un bon sujet, positif. C'est une chose que vous allez avoir la joie à écouter. Vous aurez vraiment la paix dans votre cœur à cause de ce que nous allons voir et pas le contraire. Amen. À moins que vous soyez quelqu'un qui est révolté contre le plan de Dieu. À moins que vous soyez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. À moins que vous soyez quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le Seigneur comme il faut. Là, c'est peut-être une autre histoire. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, on est supposé de s'encourager et de se consoler les uns les autres avec les choses que nous allons voir. Amen. Et juste pour commencer, j'avais à cœur de lire Romains chapitre 13. Et on va lire juste le 11e verset. C'est dans vos notes même, mais regardons Romains 13, 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Et ça, c'est un verset qui a été écrit il y a presque 2000 ans. Et si le salut était prêt pour eux, à combien plus fort raison devrions-nous croire que c'est plus près pour nous? Amen. Il y a un autre verset en Hébreux 10, 37 qui dit, en effet, il est écrit, et c'est dans la Bible française courante, « Encore un peu de temps, très peu même, tout le monde dit très peu même, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Amen. Là, ça c'est une prophétie sûre et certaine. Amen. C'est pas une question d'interprétation, c'est la parole de Dieu. Celui qui viendra, celui qui doit venir viendra, il ne va pas tarder. Amen. Jésus-Christ va revenir sur la terre. Jésus-Christ va établir son royaume ici sur la terre. Mais ce n'est pas encore le temps, mais le temps est proche. Amen. Et qu'est-ce que nous allons voir dans cette série? On va voir beaucoup de choses. On va voir aujourd'hui le plan de Dieu pour toute l'humanité dès la création de l'homme jusqu'à la fin du temps. Et on va voir comment Jean de survol de son plan. Parce que c'est important de comprendre dans quel jour ou dans quel temps nous vivons. Comme le verset dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Laisse-moi vous poser la question. Savez-vous en quel temps vous vivez? Est-ce que vous savez vraiment l'heure qu'il est? Savez-vous, sur le calendrier de Dieu, quel jour il est aujourd'hui? Si vous ne savez pas, vous êtes dans les ténèbres. Mais si vous savez, vous serez illuminé et ça va changer votre façon de vivre ici sur la terre. Et vraiment, le sous-titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu merci, c'est vendredi ». Hein? Tout le monde dit « Dieu merci, c'est vendredi ». Si la semaine commence avec dimanche, OK? Et puis on a lundi, et ensuite on a mardi, mercredi, jeudi, le sixième jour c'est vendredi, le septième jour c'est samedi, ou le sabbat on pourrait dire. Là, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que sur le plan de Dieu, nous sommes rendus à vendredi. Amen? C'est vendredi! Et ça, c'est une bonne chose parce que même dans le naturel, la plupart des gens qui travaillent du lundi au vendredi, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare parce que les gens travaillent n'importe quelle heure, n'importe quel jour, mais traditionnellement, les gens vont travailler du lundi au vendredi. Et quand c'est vendredi, quand vendredi arrive, souvent les gens sont heureux, n'est-ce pas? Dieu merci, c'est vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont tomber en congé samedi. Mais, avant de tomber en congé, souvent, ils vont faire toutes sortes de choses. Hein? Vendredi, souvent, c'est une journée occupée. Pourquoi? Parce qu'il faut finir toutes les choses qu'il faut finir avant de tomber en congé. N'est-ce pas? C'est la même chose pour l'Église. L'Église va bientôt tomber en congé, on pourrait dire, juste en certain sens. On ne sera pas inactif. On va voir dans le septième jour, on pourrait dire, on va avoir plein de choses à faire. Mais on va bientôt avoir du repos. Amen? Mais avant d'avoir ce repos, on a besoin de finir notre travail. On a besoin d'accomplir les choses que nous avons besoin d'accomplir avant de quitter le bureau. Amen? Avant de quitter le shop, il faut terminer. Dieu merci, c'est vendredi, samedi s'en vient, mais on a quand même du travail à terminer avant de tomber en congé. Amen? Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et on va commencer en parlant aujourd'hui des dispensations de Dieu. En fait, qu'est-ce que nous allons voir? Une dispensation, c'est tout simplement une période de temps où Dieu a confié à l'homme certaines responsabilités, certaines choses à faire. C'est une fenêtre de temps, on pourrait dire, où Dieu a certains objectifs à réaliser. Et dans l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a sept dispensations ou sept périodes du temps dans l'histoire de l'humanité. Et on va voir les sept choses que Dieu a planifiées et on va voir qu'est-ce que Dieu a déjà fait. On va voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'il va faire demain. Amen? Et c'est important. Comme ça, vous saurez quel temps nous vivons. Vous allez savoir, vous serez au courant de la journée que nous vivons aujourd'hui. Amen? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, combien de vous êtes prêts à écouter cela ce matin? Donc, la première dispensation de l'histoire de l'humanité, ou on peut dire la première âge, c'est notre façon de le dire, c'est l'âge d'innocence. C'est l'âge d'innocence. Donc, écrire cela, innocence. Et ça commence avec la création de l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés dans le jardin et ils étaient parfaits, innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Ils étaient purs, blancs comme la neige. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu le Père. Et c'était vraiment le paradis sur la terre. Vous êtes d'accord? On connaît tous l'histoire. Donc, on voit, et si vous suivez dans vos notes, que le début de cet âge d'innocence a débuté avec la création de l'homme, et cet âge a pris fin avec la chute de l'homme. Quand l'homme a péché contre Dieu, quand l'homme a désobéi à Dieu, il est tombé de la grâce et il a perdu son innocence. Les personnages principaux de cet âge, de cette dispensation, étaient Adam et Ève. Ils étaient là dans le jardin, ils avaient la communion avec Dieu. Ils avaient une certaine responsabilité aussi. Leur responsabilité, c'était de se multiplier, de dominer la terre, toute la création. Et en plus, ils avaient reçu le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous connaissons l'échec qu'ils ont vécu. Ils ont désobéi, ils ont mangé. Et dès qu'ils ont mangé, la parole de Dieu dit qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Parce que Adam a vécu jusqu'à avoir 900 quelques années. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il était innocent au début, mais il a péché. Et la chute de l'homme a amené une malédiction. C'était quoi le jugement qu'ils ont subi? C'était une malédiction. Même la terre a été maudite. Vous savez qu'avant la chute de l'homme, que sur la terre, tous les animaux vivaient en paix, que même les plantes, les roses, n'avaient pas d'épines. On voit dans la parole de Dieu que la terre était parfaite. Aucune malédiction. Tout était en harmonie. Merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous voulons. Ça, c'était le plan originel de Dieu. Et laisse-moi vous dire que le plan originel de Dieu, c'est le plan éternel de Dieu. Amen? Et on va revenir encore à l'harmonie, on va voir un jour la terre même sera délivrée de la malédiction. On va voir une manifestation des fils de Dieu. On va voir vraiment la paix sur la terre. On va voir une joie et une harmonie comme ils avaient au début et quelque chose d'encore plus grand. Amen? N'est-ce pas bon? Et même là, dès le début, en Genèse 3, 15, Dieu a donné une promesse. Quand il a maudit le serpent, et quand il parlait à Adam et Ève, il a promis, il a donné la première prophétie vraiment de Jésus-Christ, c'était en Genèse 3, 15. Écrivez cela dans vos notes, en Genèse 3, 15, on va le lire. Alléluia. Juste vite, vite, Genèse 3, 15. Et ici, il parle au serpent et il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, tout de suite, Dieu a tant aimé le monde qu'il a eu déjà, même avant de créer l'homme et la femme, il avait déjà un plan d'action. Dès que l'homme pêche, dès que l'homme désobéit, il avait déjà un plan. C'était quoi le plan? C'était l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est immolé avant la fondation du monde. La semence de la femme. Ça, c'est quelque chose. Ça parle de la naissance de Jésus par la Vierge Marie. Donc, on voit la Vierge Marie et on voit Jésus, la semence de la femme qui est promis. Dès la chute, dès que Adam et Ève ont péché, Dieu a déjà donné une promesse. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez l'amour de Dieu? Son plan, c'était de racheter le monde, de sauver le monde. Dieu est un Dieu d'amour. Tout le monde dit Dieu m'aime. Et Dieu aime le monde entier. Donc, désolé, je sais que Guy Lemond, je ne sais pas s'il est là ce matin, mais je sais qu'il aime ça, ce verset, car Dieu a tant aimé le monde. Mais ce n'est pas juste lui, c'est le monde entier. Amen? Laisse-moi vous dire une chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il avait un plan tout de suite. Même avant que l'homme a péché, il avait un plan. Et tous les autres chapitres de l'histoire de l'humanité, en fait, étaient une préparation pour faire venir Jésus sur la terre, pour nous sauver de nos péchés. Donc, le premier âge, c'était l'âge de l'innocence. Mais après cela, après la chute, il y avait une deuxième âge, c'était l'âge de conscience. Comment dire conscience? Cela a commencé, le début, c'était la chute de l'homme. Et ça a pris fin lors du déluge. OK? Le personnage principal à cette époque, c'était Noé. On connaît tous l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Il avait une responsabilité, toute la terre avait une responsabilité, c'était de faire le bien et d'offrir les sacrifices. Mais le problème, c'est que selon Genèse chapitre 6, que toute la terre était remplie de la violence et que même les pensées de l'homme étaient continuellement et complètement pourries. Et à chaque instant, il ne pensait que les pensées violentes. Intéressant, on va pas le voir à fond aujourd'hui, mais Jésus a dit qu'à la fin des temps, ça serait comme dans les jours de Noé. Amen. Et on voit beaucoup de cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à l'époque, tout le monde était pourri, tout le monde était infecté par le péché, et au lieu de vraiment agir par la conscience comme faux, la plupart des gens, presque toute l'humanité, a agi mal, et ils ont fait le mal, et ils n'ont pas fait des sacrifices à Dieu. Au contraire, ils se sont tués entre eux, et ils se sont volés. C'était vraiment la débauche au complet. Sauf, il y avait un reste. Sauf, il y avait un homme qui s'appelle Noé, un prédicateur de la justice, un homme qui, malgré qu'est-ce qui se passait autour de lui, malgré la société, il tenait bon. Et même si les gens se moquaient de lui, il a obéi à Dieu, il a construit une arche. Amen. Et là, quand le déluge est venu pour détruire le monde et pour amener un jugement, Noé et sa famille, 8 personnes en tout, ont été sauvées. 8 personnes seules ont été sauvées. Et ça, c'est vraiment un symbole aussi des fins des temps. Amen. Quand le jugement de Dieu a été répandu sur la terre, Dieu a protégé son peuple dans l'arche. Et quand le jugement à la fin des temps sera déclenché et répandu sur la terre, on va voir dans les semaines à venir, le peuple de Dieu va être protégé. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi on peut s'encourager avec ce message. Amen. Donc, ça a pris fin avec le déluge universel. Mais tout de suite après, Noé et sa famille, ils ont débarqué de l'arche. Et Dieu ils ont fait les sacrifices à Dieu, ils ont offert des sacrifices à Dieu, et Dieu a commencé à donner les instructions. Une nouvelle dispensation a commencé, c'était l'âge du gouvernement, tu peux écrire gouvernement humain. Écrire cela, l'âge du gouvernement humain. Et là, qu'est-ce que Dieu voulait? C'est que là, les hommes, au lieu juste de vivre selon leur propre conscience, là, ils voulaient établir vraiment de l'ordre. Il a dit même, en Genèse chapitre 9, on voit qu'il a donné le droit à l'homme de tuer les animaux pour manger. Avant ça, ils étaient tous les végétariens. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné la permission aux hommes de tuer les animaux pour les manger. Une autre chose qu'il a donné la permission aux hommes de faire, c'était quoi? En fait, dans le fond, il a dit que si quelqu'un fait mourir quelqu'un d'autre, c'est votre responsabilité de le faire mourir. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contre la peine de capitale, mais dans le fond, c'est Dieu qui l'a créé. Je dis pas, je vais pas donner un commentaire sur aujourd'hui, quoi que ce soit, mais laisse-moi vous dire, c'est Dieu qui a dit, si un homme tue un homme, tu vas le tuer. Amen. Pourquoi? C'était pour établir de l'ordre. Ils ont, dans l'âge de conscience, tout le monde faisait selon leur propre conscience, et c'était le désordre total. Là, ils ont dit, on va créer de l'ordre, et on va maintenir de l'ordre, parce que on va donner le droit à l'homme de se gouverner. Et si un homme n'obéit pas les lois civiles, cet homme va être puni. Et c'est comme ça que la Bible dit en Romains chapitre 13 que nous sommes supposés d'être soumis au gouvernement humain. Et même la Bible dit que ceux qui portent l'épée ne le portent pas pour rien. Les policiers aujourd'hui portent les armes, n'est-ce pas? Le militaire porte les armes. Et je sais que c'est un sujet délicat, mais c'est Dieu qui a dit que si un homme tue un homme, il va être tué. C'est important qu'on réalise, c'est Dieu qui a institué ces choses. Mais le problème, c'est qu'il y avait un personnage principal à l'époque, et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Nimrod. C'est un bon nom, hein? Nimrod. Je ne sais pas si je l'ai prononcé comme ça en français, mais Nimrod, c'est la première personne qui est vraiment devenu comme un personnage fort, comme presque un dictateur, on pourrait dire. Il a construit des villes, et c'est intéressant, là où il a construit les villes, en Irak, c'était pas Irak à l'époque, mais une chose qu'ils ont entreprenée, c'était de construire le tour de Babel. Vous vous rappelez de l'histoire? Et là, qu'est-ce qui est aujourd'hui Irak, ils ont pris une décision. Toute la terre était ensemble. La Bible dit qu'ils avaient une seule langage. Tout le monde était capable de communiquer. Et ils ont, eux, le projet. C'est un tour ou une tour? Une tour qui va atteindre les cieux. Alors donc, ils ont oublié Dieu. En fait, qu'est-ce que dit à Noé quand il est sorti de l'arche? Quand il a institué le gouvernement humain, il a voulu quand même que Noé et ses enfants remplissent toute la terre. Dieu a dit d'aller se multiplier et de remplir toute la terre. Comme on dit toute la terre. Mais au lieu de faire cela, au lieu de se disperser, au lieu de se multiplier, ils se sont rassemblés tous ensemble avec un projet qui n'était pas le projet de Dieu. Et cet homme, les hommes, avec leur petite intelligence, ont pensé qu'on va atteindre les cieux. Mais savez-vous qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Dieu a dit, maintenant ils ont une seule langue, et peu importe qu'est-ce qu'ils entreprennent, personne ne peut les empêcher. Je paraphrase. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans l'unité, n'est-ce pas? Mais Dieu, il savait, on ne peut pas permettre à cela d'avoir lieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait autour de Babel? Il a confondu les langages du peuple. Et là, au lieu de parler comme faux et d'être capable de communiquer, c'était tout chinois. Mais pas chinois, c'était toutes sortes de langues. Et là, il y avait de la confusion et la division. Et là, le peuple a été dispersé. Amen. Ça, c'est l'ange du gouvernement qui a pris fin avec le tour de Babel. Et on voit encore que les gens commencent à se disperser et de remplir la terre. On dit toute la terre. C'est important parce qu'on va revenir à cela dans les autres sessions. Donc là, on voit, on est rendu au quatrième dispensation. C'était l'ange de la promesse. On dit la promesse. Ici, nous avons un monsieur qui est le personnage principal, qui s'appelle Abraham, qui est devenu Abraham. Et Dieu a parlé avec lui, et lui aussi, il vivait, qu'est-ce qui était à l'époque, aujourd'hui, Irak. Mais Abraham a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour plusieurs raisons. Il a été choisi par Dieu parce que Dieu savait que c'était un homme de foi, et aussi, la parole de Dieu dit qu'il savait qui allait enseigner ses enfants après lui. Donc, Abraham a été choisi parmi le peuple, et Dieu a fait une promesse à cet homme. La promesse que Dieu a faite à Abraham se trouve en Genèse chapitre 12, verset 1, et c'est très, très, très important, ce verset, Genèse 12, 1 à 3, dit, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je vais le lire encore, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. » Combien des familles de la terre seront bénies en lui? Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En Abraham. Donc Dieu a fait une promesse. Dieu a choisi Abraham pour faire une alliance avec Abraham, pour lui donner un pays et pour lui donner une famille. Et il a dit que je vais te bénir, tu vas devenir une source de bénédiction, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, et ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient? C'est pas par hasard. Laisse-moi vous dire, c'est pas populaire, je sais. Et je sais que tous ces messages sont sur l'Internet. Mais laisse-moi vous dire une chose. Dieu a quand même choisi le peuple d'Israël. Amen. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que les Israéliens font? Non, je n'ai pas dit que je suis d'accord ou qu'ils sont toujours bons. Non, ils ont rébellé, révolté même contre Dieu. Mais laisse-moi vous dire quand même, Dieu a fait une promesse à un homme qui s'appelle Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Et c'est important, et quand nous prions, c'est important que nous prions pour nos gouvernements qui restent sur le bon côté d'Israël. Ceux qui bénissent Israël seront bénis. Ceux qui maudissent Israël seront maudits. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est important parce que on va. Pourquoi est-ce qu'on parle du passé, de ces autres âges? Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va déterminer, et ça a déterminé où on est rendu aujourd'hui, et ça va déterminer le futur demain. Amen? Dieu n'a pas changé d'idée. Il a complété son plan, mais il n'a pas annulé son plan. Amen? Alléluia, c'est une révélation progressive de la volonté de Dieu ici sur la terre. Donc, l'ange de la promesse a débuté avec l'appel d'Abraham et ça a pris fin avec l'exode d'Égypte. C'est-à-dire que ils avaient une responsabilité de croire aux promesses, d'habiter à Canaan, mais on voit que à la fin de cet âge de la promesse, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était prisonnier, esclave en Égypte. Mais ils ont poussé des cris de détresse et Dieu est venu au secours et pour débuter le cinquième âge. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont sortis de l'Égypte et quand Dieu a donné les 10 commandements, quand Dieu a donné la loi à Moïse, et vraiment le personnage principal de l'âge de la loi, c'était Moïse. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, ça a commencé la cinquième dispensation. Et ça a pris fin seulement avec la crucifixion de Jésus-Christ. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, la responsabilité à cette époque, c'était de garder les commandements de Dieu. Mais l'échec qu'ils ont éprouvé, c'est qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et le jugement que Dieu a amené suite à cela, c'est que Israël a été dispersé. Mais la bonne nouvelle, et on va voir cela dans les semaines à venir, c'est que Dieu a promis, même en dispersant Israël, ils ont perdu leur tout, ils ont été dispersés dans plusieurs endroits, mais Dieu a promis de les rassembler. Et jamais dans l'histoire de l'humanité est-ce qu'on a vu une nation, un pays dispersé et ensuite rassemblé, sauf avec Israël. Amen? On va parler d'Israël un peu plus à fond, parce que ça... Israël, la fin des temps, vont de pair. Amen. On ne peut pas parler de la fin des temps sans parler d'Israël. Donc, les gens, des chrétiens, c'est étonnant pour moi de voir les chrétiens qui s'en fichent de qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et c'est quand, hey, ça n'a rien à voir avec nous au Québec. Oui, oui, oui. Ça a tout à voir. Et vous allez voir de plus en plus que tous les yeux de la terre entière vont être vraiment fixés sur ce petit pays dans le Moyen-Orient qui s'appelle Israël. Amen? C'est incroyable, mais c'est le plan de Dieu. Et c'est merveilleux. Donc, ils ont été dispersés. Mais une chose que j'aimerais juste lire à propos de l'âge de la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a institué la loi? Son plan, c'était d'amener Jésus sur la scène. Son plan, c'était d'amener un sauveur. Mais... En Galates chapitre 3, versets 24 et 25, regardons, c'est dans vos notes. Là, on voit le but et la raison pour laquelle Dieu a institué la loi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La seule raison pour laquelle Dieu a donné toute la loi, c'était pour prouver à l'homme que l'homme était dans l'impossibilité de faire plaisir à Dieu et de garder toute la loi. Amen. Il a dit, voici la loi est parfaite, mais l'homme est imparfait. Donc, la loi a été un pédagogue. Vous savez, c'est quoi un pédagogue? À l'époque, un pédagogue, c'est quelqu'un avait les enfants qui avaient besoin d'aller à l'école ou quelque chose, c'est quelqu'un qui pourrait accompagner son enfant pour l'amener à l'école. OK? Donc, si Kate a besoin d'aller à l'école, si elle a besoin d'un pédagogue, c'est comme, OK, on va prendre sa main, on va la conduire à l'école. La loi de Dieu, les 10 commandements et toutes les lois que Dieu a données ont été données pour nous prendre par la main et pour nous conduire à Jésus-Christ en disant, c'est impossible pour vous de garder toute cette loi sans avoir la grâce, sans être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Amen? Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous sommes rendus. Amen. Alléluia. Et on voit Jésus sur la croix, crucifié. Jésus-Christ, c'est la seule personne qui a gardé la loi au complet. Lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et Jésus, quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout le monde dit, tout est accompli. Donc, faites attention aux gens qui veulent vous mettre encore sous le joug de la loi, qui veulent vous donner toutes sortes des règles et toutes sortes des choses que, de l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament est important pour nous? Oui, on a des exemples pour notre foi, mais nous ne sommes plus obligés de vivre sous la loi. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il y a une seule loi. C'est quoi la loi? C'est la loi de l'amour. Amen. On aime Dieu et on aime notre prochain. Et si on marche dans l'amour, on va automatiquement accomplir toute la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ça nous amène au deuxième âge. Et Dieu merci, c'est vendredi. Amen. Ils ont vécu sous la loi 401, mais là, on voit, Jésus est venu, il a accompli la loi, il a été crucifié. La loi. Numéro 5, c'est la loi. Mais numéro 6, je vais vous dire, Jésus est cloué à la croix, il dit, tout est accompli, ok? Il meurt, il est enterré, 3 jours plus tard, il est ressuscité, il est enlevé, et il remonte au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Donc là, on a maintenant, à la droite du Père, Dieu et homme qui sont devenus un. Amen. Maintenant, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. Il y a un homme aujourd'hui assis sur le trône au ciel. Et ça, c'est l'homme qui s'appelle Jésus-Christ. 100% Dieu et 100% homme. Il est remonté au ciel. Et le plan de Dieu, maintenant, c'est que Dieu, parce que les Juifs et Israël ont rejeté le Messie, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Dieu va juger Israël. Bon, ça tombe. Mais avant qu'il juge Israël, il y a quelque chose. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Vous savez que il s'en vient un jugement de Dieu, la colère de Dieu va être relâchée sur la terre dans la grande tribulation. Et on va parler à fond de cela dans une autre semaine. On va parler de l'enlèvement, on va parler de l'antéchrist, la marque de la bête, on va répondre aux questions que les gens ont, mais dans une façon positive, qui ne va pas faire peur à qui que ce soit, au contraire, vous serez dans la joie. Amen? On va parler de toutes ces choses. Mais là, on est rendu avec la fin de l'âge de la loi. Dieu a donné une ouverture, une occasion. Alléluia. Pas juste pour les Juifs, mais il a ouvert la porte à toutes les nations de la terre. Maintenant, Dieu ne traite pas juste quelque chose avec le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham dans le naturel, mais maintenant, et on a vu cela le jour de Pentecôte, il a dit que je répande sur toute chair de mon esprit. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Et on voit le commencement d'une nouvelle dispensation, c'est l'âge de la grâce. Ou on peut dire aussi le temps de l'Église, comme on dit l'Église. Je veux que vous voyez où ça fit dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est vendredi. Dieu merci, c'est pas jeudi. N'est-ce pas merveilleux qu'on n'est pas né sous la loi? Combien de vous, vous êtes contents de ne pas être né sous la loi de Moïse? Heureusement, parce que laisse-moi vous dire, quelqu'un fait des gaffes sous la loi de Moïse, ils sont lapidés. Hein? Il y a plusieurs d'entre nous, ce matin, qui ne seraient plus là parce qu'on aurait été lapidés sous la loi. Mais Dieu merci, c'est vendredi! Alléluia! Samedi s'en vient, mais ce n'est pas encore samedi. Mais qu'est-ce que je veux que vous voyez, c'est que le temps de l'Église, c'est un temps limité. C'est juste une période assez courte.
on voit dans le fond que ça fait à peu près 6000 ans que les êtres humains existent sur la terre. 6000 ans. Et on voit, selon la parole de Dieu, que vraiment, avec la, vraiment le plan de Dieu, c'est d'avoir une période d'à peu près 7000 ans, OK, avant la fin de toutes choses et le recommencement de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Amen. Jésus a même donné les indices que la période de l'Église, le jour de grâce, devrait durer à peu près 2 jours. Avec le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Ça fait à peu près 2 jours depuis que Jésus est remonté au ciel pour lui. Mais pour nous, ça fait à peu près 2000 ans. Les 6000 ans de l'humanité, on est supposé de commencer très bientôt le 7e jour, on peut dire la dernière période de 1000 ans. Amen? Et cette dernière période de 1000 ans, c'est numéro 7, c'est l'âge du royaume au j'ai de la misère en français de le dire, c'est le millennium, de millennium, OK? C'est le millennium. Vous avez entendu parler de cela? Et dans le millennium, on voit que ça commence avec le retour de Christ dans sa gloire. Ça prend fin avec la résurrection des injustes et le grand trône blanc. On va parler de ces choses à fond dans les autres semaines. Le personnage principal, là, on va revenir à l'Église dans une minute, mais je voulais juste vous donner un aperçu du 7e jour, là. Le personnage principal, c'est le roi Jésus-Christ qui va venir et littéralement régner sur la terre à Jérusalem. Il va être assis sur le trône de David. Amen. Et on voit qu'il y aura même une dernière révolte. Satan va être relâché. On va parler de ça en détail dans les autres semaines. Et il va essayer de séduire encore des gens. Ils vont être détruits par le feu. Et finalement, le jugement final, c'est que les morts qui n'ont pas accepté Jésus et tous ceux qui sont morts dans les âges passés, qui ne sont pas en Christ, vont être vraiment jetés dans les temps de feu. On voit, j'ai un paragraphe là qui va vous aider à comprendre le millénium. C'est Christ reviendra dans ce monde et régnera assis sur le trône de David, tandis que seront accomplies les alliances traitées par Dieu avec Israël et qu'il y aura une abondance de bénédictions terrestres. Cependant, cette dispensation se termine par une révolte contre Dieu suivie du jugement par le feu du ciel. Sa durée est de 1000 ans et s'étend de la deuxième venue de Christ à l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais qu'est-ce que je veux que vous voyez? Dans le 7e jour, Dieu va restaurer complètement Israël. La nation d'Israël, la promesse qu'il a faite à Abraham, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça va être vraiment accompli et terminé là, dans le 7e jour, dans ces derniers 1000 ans. Jésus va être assis sur le trône et la nation d'Israël aurait accepté le Messie. Amen. Et ils vont tous venir pour l'adorer et pour l'obéir. Et la Bible dit que dans ce temps de 1000 ans, il y a d'autres nations de la terre qui vont venir à Jérusalem. Toutes les nations de la terre seront bénies. Donc on voit que vraiment le plan de Dieu pour Israël sera accompli dans ces derniers 1000 ans. Mais, on n'est pas encore rendu là. Et la bonne nouvelle, Dieu merci, c'est vendredi. Dieu a établi un jour en disant qu'aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, je donne l'occasion parce que Israël a rejeté Jésus. Israël est appelé comme un olivier. Et les vraies branches de cet olivier ont rejeté Jésus. Ils ont été retranchés, la Bible dit. Pour que Dieu pourrait aller chercher des branches sauvages et les hanter et vraiment les unir à son royaume. Qui sont les branches sauvages? Si vous n'êtes pas un descendant d'Abraham selon la chair, vous êtes une branche sauvage. Amen. Avant, le salut n'était que pour les Juifs. Mais là, à cause de l'âge de grâce, il a dit, Israël a rejeté, maintenant je vais aller vers les païens. Et un grand nombre de personnes vont venir. Et savez-vous, une des raisons pour cela? Dieu veut rendre Israël jaloux. ceux qui ont rejeté le Messie, Dieu va dire, OK, je vais vous montrer une chose. Je vais amener des personnes, je vais faire un peuple qui n'était pas un peuple, je vais les amener, amen, à moi, et vous allez voir jusqu'à quel point ils sont bénis. Amen. Ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est le grand plan de Dieu. L'Église est appelée le grand mystère caché de toute éternité. Et nous vivons dans ce sixième jour. Ça a commencé il y a 2000 ans et ça va bientôt prendre fin. On est là. On est là. La porte commence à se fermer. Le jour de la grâce est presque terminé. Amen. C'est pas une farce que je dis là. Le jour de la grâce est presque terminé. Et on va bientôt commencer le millénium. Mais avant le millénium, il y a quelque chose. Le jugement de Dieu. La colère de Dieu. Qui va être répandu sur la terre dans la grande tribulation. Voulez-vous savoir une bonne nouvelle? L'Église n'est pas supposée être là pendant cette tribulation. Ceux qui ont été sauvés dans le sixième jour, ceux qui ont été sauvés vendredi, amen, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus vendredi, ils vont pouvoir être enlevés de la terre juste avant que 7 ans de tribulation commencent, là où Dieu va juger Israël et répandre sa colère sur la terre pendant 7 ans, et à la fin de cette 7 ans, Jésus va revenir avec puissance et gloire. Et qui va être avec lui? Nous. Nous serons avec lui. Jésus sera assis sur un cheval blanc, mais toutes les armées du ciel et toutes les personnes qui ont été sauvées vendredi vont revenir avec lui pour régner avec lui pendant 1000 ans de temps. N'est-ce pas merveilleux? Mais je veux que vous voyez, nous vivons, on est à la fin, il fait vendredi soir et c'est tard. Amen? C'est vendredi soir et c'est tard. Moi, je dirais, on est probablement rendu à 11 heures. Amen? C'est la 11e heure de la vraiment de l'âge de la grâce. Je vais juste lire 2 autres versets. Je sais que d'habitude, on termine à 11h30. Mais combien de vous savez que c'est important, même si on va 5 minutes de plus, c'est important de savoir quel temps nous vivons. Amen? Dieu veut faire quelque chose de grand et merveilleux et glorieux. Et ici, je vais juste lire qu'est-ce que Paul a dit en 2 Corinthiens, chapitre 6. Alléluia. Versets 1 et 2, c'est marqué. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous connaissez le chant, voici le jour que le Seigneur a fait. On ne parle pas quoi, le 23 mars, ou c'est pas une journée sur le calendrier, c'est le jour de la grâce qu'il a fait, amen. Et cette journée de la grâce va bientôt prendre fin et on a besoin de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Écoutons qu'est-ce que Paul a dit en Éphésiens 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation, tout le monde dit dispensation, la dispensation du mystère caché de tout temps qui a été créé de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, on dit par l'Église, la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Prenons pas la grâce de Dieu en vain. C'est pas tout le monde qui avait l'occasion de s'approcher de Dieu comme ça. Autrefois, sous la loi, ce n'était que les Juifs. Amen. Mais Dieu a créé une journée. Il appelle aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Et Dieu a créé ce plan. Il a caché de toute l'éternité. Personne ne savait. Personne ne pouvait le voir sans venir. Les Juifs étaient tous bouleversés, même quand Pierre a commencé à prêcher aux non-Juifs. Mais merci Seigneur. Il a prêché aux non-juifs. Et nous sommes là aujourd'hui. C'est vendredi, Dieu merci, c'est vendredi. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une belle espérance que vous n'aurez pas besoin de passer par la tribulation, mais vous allez être enlevés pour revenir avec Christ, pour régner pendant 1000 ans sur la terre avec Jésus-Christ. Amen? Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen? C'est le dernier verset qu'on va voir aujourd'hui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, tout le monde dit aujourd'hui, en disant dans David, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne reste pas grand temps pour accepter le Seigneur Jésus. Avant que samedi s'en vienne, avant la tribulation. Il ne reste pas beaucoup de temps non plus pour nous de prêcher la bonne nouvelle. Pour nous, la plupart de nous, nous connaissons déjà Jésus. Mais nous allons voir, je pense qu'on a besoin d'une révélation et il faut qu'on sache quel temps nous vivons. C'est vendredi, c'est la nuit, c'est à peu près 11 heures. Amen. L'enlèvement s'en vient bientôt. La tribulation va suivre, et ensuite, 1000 ans du royaume d'Israël sur la terre. Amen. Mais, il ne reste pas grand temps pour nous d'accepter Jésus, il ne reste pas grand temps pour nous de prêcher Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à aller prêcher la bonne nouvelle qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut? On va demander à Jessica de venir jouer, et on va prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit, on va voir à fond qu'est-ce que la Bible enseigne concernant l'enlèvement de l'Église. Je pense que la semaine prochaine, on va voir les signes spécifiques des temps. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est la 11e heure? Qu'est-ce qui nous donne quels sont les indices qu'on est vraiment dans les dernières minutes des derniers jours? On va voir cela la semaine prochaine. Amenez des personnes, amen, pour écouter cela. On va parler aussi de l'enlèvement. Comment est-ce qu'on peut être sûr que l'enlèvement va précéder la tribulation? Parce que ce n'est pas tout le monde qui pense ça. Il y a des gens qui pensent qu'en tant que chrétiens, nous aurons besoin de subir la tribulation. Mais on va voir selon la parole que ce n'est pas vrai. Amen? On va voir les choses concernant la tribulation, l'antichrist, la marque de la bête. Et on va voir que les chrétiens n'ont rien à craindre. Amen? Absolument rien à craindre. On va voir que les choses concernant le règne millénaire de Jésus sur la terre, on va voir les choses concernant le ciel et l'enfer. Est-ce que ça vous intéresse? Mais venez nombreux et amenez des personnes. Mais ce n'est pas juste pour remplir la tête avec de l'information. C'est parce que Dieu veut qu'on soit transformé. Il veut qu'on vive comme les enfants de Dieu qui savent que c'est vendredi soir, c'est vendredi 11 heures. Et que le jour de la grâce va bientôt prendre fin. Un jour, les portes, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et c'est seulement Noé et sa famille qui ont été saufs et sains à l'intérieur. Un jour, la porte va être fermée sur le 6e jour, on pourrait dire. Un jour, bientôt même, la porte va être fermée, le jour de la grâce va être terminé. L'Église ne sera plus sur la terre, mais au ciel, pour une saison, avant de revenir avec Christ. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos jours qui nous restent? Si vous êtes ici, vous n'avez pas accepté Jésus, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous avez accepté Christ, aujourd'hui, c'est le jour de prêcher Christ. Amen. Ne dites pas, il y a encore 4 mois et ensuite la moisson. Relevez les yeux, regardez, les champs sont déjà blanchis pour la moisson. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, avec tous les yeux fermés, on va juste prier ce matin. Et j'aimerais inviter, comme on fait à chaque dimanche, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux être sûr et certain que je fais partie de cette Église glorieuse. » Je veux être sûr et certain que je vais être parmi ceux qui sont enlevés avant la tribulation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, prie pour moi, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. La Bible dit, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je lèverai la main? Il y a une personne avec la main dans l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu as besoin d'accepter Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Jésus pourrait venir aujourd'hui même pour l'Église. On pourrait. Moi, je ne crois pas, mais c'est possible. Moi, je pense personnellement qu'il faut qu'on reste un peu plus de temps pour gagner quelques âmes de plus. En fait, beaucoup d'âmes de plus. Amen. Mais quand même, ça se peut qu'il pourrait sonner la trompette aujourd'hui et que Jésus pourrait nous enlever aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Alléluia. Sinon, on va prier à une personne qui a levé la main, je pense, pour une redédication. Mais on va tous prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour le jour de la grâce. Je ne veux pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais je te remercie du fond de mon cœur que je peux faire partir de cette Église glorieuse, cette Église triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, d'aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci que l'Église va grandir. Israël va être rendu jaloux avant que tu viennes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va juste chanter un chant avant de partir aujourd'hui. Et c'est des choses à méditer. Jésus revient bientôt. Dieu merci, c'est vendredi. Samedi s'en vient, mais on a beaucoup de choses à faire.